Allons enfants de la campagne.
Une émission politique proposée par le lycée Jean Monnet.
Des élèves de lycée à la rencontre d'un homme politique.
Des questions.
Les grands enjeux de la campagne.
Les préoccupations de la jeunesse.
Avec, aujourd'hui...
Nathalie Huillard, déléguée départementale CPNT 80. Et je suis également membre du comité exécutif national de notre mouvement.
Eh bien, bonjour et bienvenue sur l'antenne d'RVM 93.7. Je vous rappelle que vous écoutez Allons enfants de la campagne pour la Xème édition. Donc, je vous rappelle le principe, hein, c'est un invité qui représente un des candidats à l'élection présidentielle. Aujourd'hui, il s'agit de Nathalie Huillard pour Chasse, Pêche, Nature et Traditions. Et des traditions dans cette émission, nous en avons, puisque, vous le savez, ce sont les élèves de lycée qui interrogent notre invité. Et en l'occurrence, aujourd'hui, il y a du monde, puisque nous n'avons pas moins de 5 représentants des lycéens. En la personne de Jeanne. Bonjour Jeanne.
Bonjour.
De Charline.
Bonjour.
Bonjour. De Gabriel.
Bonjour.
De Christophe.
Bonjour.
Et de Sacha.
Bonjour.
Et pour co-animer cette émission avec moi, tradition oblige également, eh bien, il y a Renaud Chartoir, leur professeur de sciences économiques et sociales. Et donc, ensemble, nous allons vous présenter cette émission qui, je le rappelle, est une émission de la rédaction de RVM en association avec le lycée Jean Monnet. Bonjour Renaud.
Bonjour Eric, bonjour à tous les auditeurs et j'en profite aussi pour dire bonjour à tous ceux qui dorénavant nous écoutent sur internet via le site de RVM.
Voilà, et le streaming. Direct.
Voilà. Donc bonjour Eric, je rappelle donc que Eric est la personne qui nous met en place tout l'environnement sonore de cette émission. Bonjour madame.
Bonjour.
Donc tout d'abord, nous tenons à vous remercier d'être venu de si loin pour assister et participer à cette émission. Donc la tradition là aussi veut que la personne qui vient en fait présente très rapidement son parcours politique, la raison du choix de son engagement dans ce parti. Et donc je vous laisse quelques instants si vous le souhaitez pour présenter cet engagement.
Alors donc je me suis engagée à CPNT il y a une petite dizaine d'années, après un parcours politique plutôt citoyen puisque je n'étais pas réellement engagée, mais j'ai toujours mis un point d'honneur à voter, hein, donc dès mes 18 ans. Et j'ai écouté, puisque je me suis très tôt intéressée au discours politique, donc des uns et des autres. Et c'est vrai que au départ, j'étais plutôt très enclin à écouter le parti communiste, puisque je trouvais qu'ils avaient des idées qui pouvaient être très intéressantes. Ensuite, j'ai bifurqué par le Parti socialiste. Et puis, je me suis rendu compte notamment que les promesses qui avaient été dites à l'époque de 81, quand François Mitterrand est arrivé au pouvoir, finalement n'ont pas été concrétisées derrière. Et il s'avère aussi que dans le milieu dans lequel j'évoluais à l'époque... était un milieu ouvrier qui croyait beaucoup en ses idées et qui se sont retrouvés avec un pouvoir d'achat beaucoup amoindri et une qualité de vie beaucoup moins intéressante. Donc à partir de ce moment-là, dans la mesure où je n'avais pas d'œillères, j'ai essayé d'écouter ce qui pouvait se passer de l'autre côté, c'est-à-dire un petit peu plus vers le centre et la droite. Il s'avérait qu'ils avaient effectivement de bonnes idées. Apparemment, ce n'était que des promesses et je me suis très vite aperçue qu'elles n'étaient pas tenues. Donc à partir de là, je me suis sentie perdue au niveau de la politique, mais j'avais bien conscience que l'avenir de notre pays appartient aux politiques, hein, puisque c'est eux qui font notre quotidien. Et je me suis dit qu'il fallait impérativement de nouveau rentrer dans le combat politique et essayer de faire avancer les choses de façon à ce que ça puisse faciliter notre quotidien. Donc j'ai rencontré un peu par hasard Jean Saint-Josse, qui est le président de CPNT, hein, lors d'une réunion, puisque je chasse, et donc parce que c'est une tradition familiale chez moi, je veux pas du tout m'excuser d'être chasseur. Je pense que le chasseur a tout à fait son rôle dans l'environnement aujourd'hui, et comme dirait un de mes amis, la chasse n'a pas besoin d'être défendue, elle a besoin d'être expliquée. Donc tout à l'heure, si vous avez une question à ce sujet, je pourrais y revenir, et je pense que je pourrais faire comprendre des tas de personnes qui sont contre la chasse, et je peux effectivement comprendre que quand on ne connaît pas la gestion qui est faite grâce aux chasseurs, on peut effectivement être contre la chasse. Donc j'ai rencontré Jean Saint-Josse qui était venu sur un meeting sur Abbeville, donc dans mon département. Et il est vrai qu'à l'issue de cette soirée débat, j'étais en phase avec la plupart des choses qu'il disait. Et donc, je l'ai vu à l'issue de ce meeting. Et on s'est revus ensuite. Et c'était à l'époque où on parlait de parité. Donc, il m'a proposé effectivement de rejoindre son équipe et éventuellement d'être candidate, puisque c'était pour les dernières législatives. C'est ce que j'ai accepté. Donc, j'ai été candidate. J'ai porté les couleurs de CPNT lors des dernières législatives. Et donc ensuite, je n'étais pas déléguée départementale. On me l'a proposé il y a un peu plus de 2 ans. J'ai tout d'abord refusé parce que c'est un poste qui est très important, puisque c'est mettre en place le programme et les idées du mouvement au niveau d'un département. Donc c'est extrêmement lourd. Et donc j'avais tout d'abord refusé parce que je savais qu'il fallait beaucoup de temps et beaucoup d'investissement. Ensuite, j'ai de nouveau été sollicitée et là j'ai accepté avec tout ce que cela comporte, c'est-à-dire beaucoup d'engagement. Et c'est pour ça que c'est avec beaucoup de plaisir que j'ai répondu à votre invitation, même si effectivement j'ai mis 2h30 pour venir ce matin et je mettrai 2h30 pour rentrer ce soir. Mais je pense que c'est important, dès l'instant où on s'engage, on se doit d'être présent et surtout de répondre aux invitations.
Eh bien écoutez, merci beaucoup. Donc je vous propose maintenant de commencer la première série de questions, la première thématique qui, comme à l'habitude, portera sur les questions économiques. Eh bien écoute Christophe, je te donne la parole pour lancer cette série de questions.
Alors moi, ma question concernera les services publics. Vous comptez mettre fin à toutes les fermetures des services publics dans les zones rurales ? Mais comment comptez-vous faire et que comptez-vous faire aussi de tous les services comme les gares, les postes, les écoles qui ont déjà été fermés ?
Alors le problème, c'est qu'effectivement, nous, en milieu rural, on a une véritable problématique de fermeture des services publics, que ce soit les écoles, les gares, les bureaux de poste, etc. Parce qu'en fait, dans les villages, il faut savoir que quand une école ferme ou quand un bureau de poste ferme, c'est tout le lien social qui est atteint. Et ça, c'est extrêmement grave. Alors je vais essayer d'imager ça en vous parlant du rôle du facteur. Aujourd'hui, le facteur, lorsqu'il passe dans une petite commune, il n'est pas simplement là pour déposer le courrier. Bien souvent, il ramène le pain quand la boulangerie n'existe plus dans le village, ou les médicaments pour les personnes âgées qui n'ont pas de moyens de locomotion. Il s'inquiète aussi de voir si les volets sont fermés ou ouverts d'une habitation qui est occupée par des personnes qui sont âgées, parce que bien souvent, la seule personne, le seul lien social de ces gens-là, c'est le facteur. Donc pour nous, la perte du facteur et du courrier à domicile, c'est extrêmement grave. Alors bien entendu, c'est notre souhait le plus cher. Ceci étant dit, il est bien évident qu'il faut faire des concessions et il est bien évident aussi que ça va demander un certain nombre d'argent. Mais nous, en fait, on pense réellement que c'est la seule volonté politique. Après, vous savez, la Cour des comptes sort chaque année le bilan et on en parle une journée. On voit qu'il y a véritablement des choses qui sont inacceptables. L'argent est très mal utilisé. Il y a des émissions de télévision qui nous démontrent régulièrement que l'argent est extrêmement mal utilisé. Je pense qu'il faut répartir correctement et subtilement cette manne. Et nous pensons effectivement que les services publics sont un point très très important.
Charline ?
Donc moi je voulais connaître votre position par rapport à la décentralisation.
Alors la décentralisation, c'est on est partagé en fait. Je pense qu'il faut pas tout décentraliser, c'est évident. Certaines choses effectivement demandent à ce que ce soit fait, mais encore une fois, je pense qu'il faut véritablement se pencher sur ce problème, ne pas apporter de réponse hâtive et surtout ne pas faire de promesses qui ne seront pas tenues.
Gabriel.
Oui, j'aimerais savoir si, à l'instar de nombreux partis politiques ou candidats, vous êtes favorable à une réforme de la PAC.
Une réforme, pas complètement. Je pense qu'il faut modifier un certain nombre de choses et surtout, en ce qui concerne les modifications, interroger tous les acteurs. Je pense que ça, c'est très important parce qu'on a l'habitude de prendre des décisions qui sont absolument pas des décisions de bon sens. Et nous, on prône véritablement le bon sens, c'est-à-dire aller chercher les réponses sur le terrain, et quand elles sont apportées par les acteurs du terrain, c'est souvent beaucoup plus concret.
Et alors justement, dans quelle direction, quel type d'évolution souhaiteriez-vous voir justement prendre la PAC ?
On est partagé, mais je pense qu'effectivement aujourd'hui nos agriculteurs ont besoin de se diversifier pour pouvoir vivre correctement, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Moi, j'en rencontre régulièrement. Ça devient terrible. Je vais vous donner un exemple. Lorsque j'étais candidate aux législatives, j'avais rencontré donc une association d'agriculteurs qui regroupait donc des céréaliers, des laitiers et des éleveurs. Et justement, à l'époque, ils avaient un gros problème. J'avais rencontré l'éleveur qui avait les poules pondeuses pour les œufs. Non, je peux pas citer de marque, donc une marque d'œufs très connue. Hein. Et à l'époque, il avait un hangar avec donc un certain nombre de poules, et les poules étaient mises en cage. Donc, on lui a dit à cette période-là, vous savez, 6 poules par cage, c'est pas bien. Il va falloir réduire. Donc, on va mettre 5 poules par cage. Par conséquent, il a retiré une poule de cette cage. Il a bien fallu de nouveau acheter des cages pour mettre la fameuse poule qui n'était plus dans la première cage. Donc, il a acheté les cages, il a mis les poules, donc 5 poules par cage. 3 mois après, on lui dit, non, c'est pas bien 5 poules par cage, c'est 4 poules par cage. Donc, par conséquent, il a fallu qu'il rachète des cages. Mais le problème, c'est que le hangar n'était plus suffisamment grand pour mettre toutes les cages. Il a donc fallu qu'il construise un nouvel hangar. 6 mois plus tard, on lui dit, c'est pas bien. C'est 3 poules par cage. Donc, de nouveau, racheter des cages, etc. Le bilan de cette personne a été le suivant. Il faut savoir que l'œuf vendu aujourd'hui ne représente qu'une partie infime du marché de l'œuf. Puisqu'en fait, le marché de l'œuf est très important au niveau des dérivés. Tout ce qui rentre dans la constitution des aliments. Et ça, c'est un marché qui est essentiellement étranger. En importation. C'est-à-dire que lui, on lui a imposé des normes draconiennes qui ne sont absolument pas imposées aux autres pays, et en fait pour un marché minimum, puisque le marché maximum de l'œuf vient de l'étranger, qui ne sont pas soumis aux mêmes règles. C'est inadmissible.
Est-ce que ça signifie que ces normes draconiennes, comme vous les appelez, augmentent les coûts de production, ce qui fait qu'il n'est plus compétitif ?
Tout à fait, absolument. Les coûts de production en France sont trop élevés, et en fait il y a véritablement un problème avec même au sein de la communauté européenne, on le sait très très bien. Les coûts de production dans la communauté européenne sont très variables d'un pays à un autre, et ça c'est complètement injuste, parce que j'estime que quand on est européen, et l'Europe a quand même été créée pour ça, on devrait avoir un certain nombre de choses qui soient identiques. Ce n'est pas le cas aujourd'hui.
Alors justement, alors comment mettre en place, donc je suppose que vous êtes favorable à l'existence de normes sociales en Europe, qui seraient communes à tous les pays.
Oui.
Mais alors, comment est-ce qu'on parvient à se mettre d'accord? Parce que je suppose sûrement que les pays qui n'ont pas de normes vont demander à ce que si on en met, elles soient minimales. Nous, au contraire, on va demander à ce que tous les autres pays s'alignent sur nos propres normes. Donc, est-ce que vous êtes, par exemple, pour une réforme du mode de décision au sein de l'Union européenne? C'est-à-dire qu'il n'y ait plus droit de veto, unanimité, mais qu'on prenne une majorité qualifiée?
Alors, il y a deux solutions. Effectivement, on peut opter pour celle-ci. On réforme l'Europe, le fonctionnement de l'Europe, c'est-à-dire que les pays se mettent tous au diapason, et là, effectivement, on sort quelque chose de concret pour tout le monde. Ou alors, on garde une certaine liberté au niveau de la gestion de chaque pays. Certains le font. Il est évident que il y a beaucoup de pays qui sont de la communauté européenne qui font un peu ce qu'ils veulent. Je parle en matière de chasse, par exemple. Chez nous, on n'a pas le droit de tirer les oies, ou on les autorise à les tirer uniquement quand elles passent. Il faut savoir qu'en Hollande, qui est quand même un pays de la communauté européenne, cette année, ils vont abattre 75 000 oies. Ils vont les abattre. Alors que bon, sur la chasse traditionnelle, ça s'appelle un prélèvement. Il faut savoir que si on nous autorisait à tirer les oies dans le département de la Somme, qui est un département où la chasse est quand même très très ancrée, hein, dans une bonne période, s'il y a un passage suffisant, il serait prélevé, allez, je vais être très large, entre 3 et 5 000 oies. Et aujourd'hui, ils vont en abattre 75 000. Ça veut dire qu'on a empêché des chasseurs d'exercer donc leur passion, pour certains de prélever des oies qu'ils vont pouvoir manger en famille, et on va aller les abattre en Hollande. La Hollande est bien, fait bien partie d'un pays européen. Donc à partir de là, voilà, il n'y a pas du tout de... Il y a deux poids, deux mesures dans l'Europe, et c'est ce qu'on peut regretter.
Jeanne.
Alors moi, je voulais savoir qu'est-ce que vous souhaitez mettre en place face au chômage croissant en France, et plus particulièrement pour le chômage des jeunes.
Alors donc, en ce qui concerne ce volet qui est très très important, puisqu'il faut savoir que le taux de chômage, même si on a tendance à toujours nous l'annoncer en baisse, sur le terrain et autour de nous, on s'aperçoit que ça baisse pas vraiment et qu'il y a de plus en plus d'emplois précaires, et ça c'est pas juste. Alors nous, ce qu'on pense, c'est qu'effectivement aujourd'hui les charges sont trop importantes, en tout cas pour les petites et moyennes entreprises. Il n'y a pas de réelle différence entre un gros groupe et une petite moyenne entreprise, voire les artisans. Et aujourd'hui, il y en a beaucoup qui aimerait embaucher, parce qu'il y a, forcément beaucoup de travail. Moi, je connais des tas de personnes qui passent entre 12 et 15 heures par jour au boulot. Il est bien évident que s'ils avaient les moyens d'embaucher, ben, ils embaucheraient quelqu'un pour pouvoir se soulager au niveau du travail. Mais c'est pas possible avec les charges. Donc, je pense qu'il faut véritablement baisser les charges. Ça, c'est une évidence. Et je pense que, en partant de là, à mon avis, on aurait peut-être une solution, en tout cas un début de solution pour résoudre ce problème de chômage, et surtout remettre les Français au travail, parce qu'aujourd'hui je pense que quand on ne travaille pas, quand on est dans cette incertitude, on a beaucoup de mal à se respecter et puis à vivre normalement. Donc je pense qu'il est très très important de remettre les Français au travail, de façon à ce qu'ils voient la vie autrement.
Est-ce que vous êtes donc pour un nouveau contrat d'embauche, enfin comme certains partis, par exemple le PS ou...
les contrats, ils nous ont... Alors, à chaque fois, ils nous parlent de nouveaux contrats, de nouvelles mesures. C'est pas ça la solution. La solution, elle n'est pas là, qu'elle soit pour les jeunes ou pour les personnes plus âgées, pour les remettre au travail. Ce n'est pas ça. Ils ont déjà... alors, à chaque fois, ça s'appelle... c'est un nouveau nom. Mais finalement, c'est la même formule. Et on sait très bien que ce n'est pas une solution.
Alors justement, à propos des contrats, Gabriel.
Oui, justement, j'aimerais savoir, étant donné que le CPNT se prononce pour plus de flexibilité, si il est favorable à une plus grande largesse au niveau des licenciements pour permettre des facilités administratives pour les entreprises, et une plus grande flexibilité au niveau des 35 heures, jugées souvent trop rigides.
Alors, donc, au niveau de tout ce qui est papier, en fait, hein, il est bien évident que on pense qu'effectivement il y a trop de choses aujourd'hui et que ça étouffe l'esprit d'entreprise. Ça, c'est une évidence certaine. Après, au niveau des 35 heures, c'est à voir. Je veux dire, aujourd'hui, on peut effectivement se contenter on peut vouloir travailler que 35 heures. Je veux dire, ça, c'est un choix. Mais il ne faut pas empêcher les gens qui veulent travailler plus pour gagner plus.
Très bien. Charline.
Moi, je voulais savoir ce que vous comptiez faire pour augmenter le pouvoir d'achat des Français.
Bah, déjà, à mon avis, une baisse de la TVA, parce que ça, tout le monde la paye. Alors là, c'est pareil, c'est une promesse qui a été faite, qui est faite à chaque fois. On va baisser la TVA, puis après on nous dit que c'est pas possible parce que l'Europe veut pas. Alors encore une fois, je suis désolée, mais bon, il faut qu'on me cite plusieurs pays européens où on a une TVA aussi forte que la nôtre.
Je crois qu'on a une TVA commune. Enfin, non, je sais pas.
Oui, enfin, nous... ouais. Oui, enfin, c'est à voir, quoi.
Non, Très bien. Donc avant tout par la baisse de la TVA.
C'est évident. Le pouvoir d'achat, vous savez, aujourd'hui, tout le monde paye cette TVA. C'est une taxe qui est pour tout le monde, que ce soit les plus pauvres ou les plus riches, ils payent de toute façon la même TVA. Donc il est bien évident que si on enlevait cette TVA, eh bien on aurait forcément dans notre porte-monnaie à la fin du mois les fameuses 19%, 19,5% de cette fameuse TVA.
L'enlever ou la réduire ?
L'enlever ou la réduire, faut voir la volonté qu'on a et ce que ça peut générer en termes de pouvoir d'achat. Après, c'est une décision et c'est une décision politique, c'est un calcul à faire. Et à partir de là, si on pouvait l'enlever, je pense que personne ne s'en plaindrait. Après, faut-il voir si le pays peut supporter ce genre de mesures. Mais bon, Déjà, dans un premier temps, on pourrait peut-être la baisser. C'est déjà les promesses qui ont été faites qui n'ont pas été tenues. Et puis, dans un deuxième temps, voir comment ça évolue et si, effectivement, on peut faire ça.
Alors, justement, comme la TVA, effectivement, est le principal impôt, qui représente à peu près 45% des recettes de l'État, et que vous êtes pour une augmentation forte de certaines dépenses publiques, justement, pour la sauvegarde des services publics en milieu rural, sur quel type, justement, de dépenses comptez-vous réduire drastiquement le train de vie de l'État pour éviter une augmentation forte de la dette publique?
Ben, en fait, si effectivement on diminue les charges des entreprises, on mettra donc plus de personnes donc au travail. À partir de là, il y aura plus de rentrées dans les caisses de l'État. C'est une répartition, c'est un choix politique. Aujourd'hui, personne n'a eu le courage de faire ce choix. Je pense qu'après, il faut se mettre autour d'une table, regarder donc les chiffres, et puis prendre des décisions pour. Vous savez, c'est comme dans un ménage. On va prendre un exemple très concret. Quand on a, je vais vous donner une somme symbolique, 1500 euros, puisque c'est le SMIC qui nous annonce à peu près tous, hein, 1500 euros net par mois, bon ben c'est clair qu'on va faire des choix. Il va y avoir une partie pour la nourriture, une partie pour les loisirs, une partie pour l'éducation, une partie pour la voiture, une partie pour les impôts. Bon ben c'est tout, on répartit. Et en fonction des priorités que nous avons, eh ben il faut répartir différemment. Pour l'État, c'est la même chose.
D'accord. Gabriel ?
Justement, pour en revenir aux charges, beaucoup d'entreprises délocalisent à cause des charges trop fortes sur elles. Et le CPNT se prononce donc pour empêcher ces délocalisations. Alors j'aimerais savoir comment vous feriez sans tomber dans le communisme ou d'autres formes de dictature, et comment vous feriez aussi pour obtenir le remboursement des aides perçues par les entreprises qui délocalisent.
Alors, sur ce sujet, c'est vrai que c'est extrêmement difficile de voir qu'on donne des aides extrêmement importantes à des sociétés qui, finalement, au bout de quelques mois, voire quelques années, ferment et s'en vont. C'est complètement injuste parce que effectivement, ces aides sont là pour remettre les personnes au travail. Et il s'avère que de toute façon, à plus ou moins court terme, ils se retrouvent sans travail. Et en plus, l'argent public est passé dans cette solution qui n'en était pas une. Alors effectivement, il faut véritablement avoir un garde-fou pour ce genre de choses, ce genre de décisions. Mais bon, encore une fois, c'est évident que ce sont des choses qu'il faut arrêter, donc il faut discuter, arrêter et prendre des positions fermes et surtout irrévocables, ce qui n'est pas toujours le cas.
Très bien. Bien, écoutez, nous venons de terminer cette première thématique, cette première série de questions. Et je vous propose maintenant, Eric, de lancer le jingle pour la deuxième série.
Qui sera la série des questions sociales, c'est bien ça, Renaud ?
C'est cela. Christophe.
Alors j'ai vu que vous vouliez mettre en place des mesures pour favoriser l'accès des jeunes et des femmes à la politique. Alors déjà j'aimerais savoir quelles seraient ces mesures et pensez-vous vraiment qu'il y en ait besoin car logiquement c'est que ces deux catégories de personnes seraient discriminées ou est-ce en fait un choix plutôt?
Alors effectivement nous pensons que... qu'on a besoin de plus de pluralité au niveau de la politique, c'est-à-dire que l'arrivée des jeunes en politique, c'est une très bonne chose, parce que c'est notre avenir. Et c'est vrai que mettre en place des choses qui vont les concerner, je pense que s'ils sont à l'initiative de cela, ce sera beaucoup plus facile pour eux. Donc les jeunes en politique, oui, mais il faut encore trouver le moyen de les intéresser à la politique. Alors moi, je suis ravie ce matin, parce que là, je suis entourée que de jeunes. Alors je me dis que bon, finalement, c'est pas perdu. Et moi-même, quand j'étais très très jeune, je suis pas si vieille que ça, mais bon, quand j'étais plus jeune, on va dire, je me suis intéressée à la politique. Mais c'est vrai aujourd'hui que j'ai beaucoup de jeunes autour de moi qui ne s'y intéressent pas. Je suis pas surprise. Je suis pas surprise parce que de toute façon, vu l'exemple que nous ont présenté tous ces politiques depuis 30 ans, on se dit qu'il faut avoir beaucoup de courage pour véritablement s'y intéresser. Alors, aujourd'hui, on a quand même la chance d'avoir 12 candidats à la présidentielle. On a quand même un choix un peu plus large qu'on a eu il y a quelques années. Et donc, on va peut-être effectivement pouvoir intéresser un petit peu plus les jeunes à cette politique. Et je le souhaite vivement. Au niveau des femmes, alors c'est très simple pour moi de vous en parler, je suis une femme et je suis une femme en politique. Alors, c'est pas le fait qu'une femme veuille ou ne veuille pas rentrer en politique, c'est pas réellement c'est pas un choix en fait, dans la mesure où le problème des femmes, c'est que nous avons donc une vie de famille. Bien souvent, nous travaillons, ce qui est mon cas. Hein, donc, je travaille, j'ai une petite fille, j'ai un mari, et je fais de la politique. C'est extrêmement dur d'allier tout ça, parce que la politique, ça prend du temps quand on veut véritablement s'y intéresser. Et une femme, lorsqu'elle a fait sa journée de travail, elle rentre chez elle, il y a une autre journée qui démarre. Et si en plus elle a un combat militant, politique, c'est pas toujours évident. Par contre, je pense effectivement que les femmes ont besoin d'être plus présentes en politique. Je pense qu'il faut pas laisser ça uniquement aux hommes. Et c'est vrai que dans certains politiques, il faut vraiment faire des coudes pour pouvoir y entrer. Ce qui n'est pas le cas à CPNT. Donc je tiens quand même à le préciser, parce qu'on nous a très souvent qualifiés de partis machistes, etc. C'est vrai qu'à la base, la chasse est représentée, puisque le mouvement est né de cela, hein, d'un problème de chasse au départ. Bon, on a vite débordé sur des problèmes de ruralité, puisque la chasse est une entité directe de la ruralité. Hein. Mais c'est vrai que à la base, c'était essentiellement des hommes. Ceci étant dit, l'ouverture aux femmes a été faite très rapidement et puis très simplement aussi. Hein. Il faut savoir que moi, je suis déléguée départementale CPNT et dans le département de la Somme, qui est un fief du mouvement. Le département de la Somme est un des départements où il y a le plus d'électeurs CPNT. Donc, et c'est quand même une femme qui est à la tête de ce mouvement dans ce département, ce qui est quand même pas anodin, dans la mesure où j'ai effectivement dans mon équipe 98% d'hommes. Ça se passe très bien. Alors bien sûr, au début, ça en a fait rire plus d'un. D'ailleurs, on a interpellé Saint-Josse en lui disant... Tu te rends compte? Tu mets une femme à la tête de la Somme et c'est du n'importe quoi. Enfin bon, j'en ai entendu de toutes les couleurs. Ceci étant dit, ça s'est vite calmé, puisqu'en fait, on a autant de courage, je pense, que les hommes. On a peut-être plus de facilité à faire passer les choses, parce que moi, j'avoue que quand je suis arrivée, j'ai repris les personnes qui étaient au bureau et je n'ai changé personne. Et je peux vous garantir que j'avais des hommes qui étaient bien arrêtés sur un certain nombre de choses. Et moi, j'avais une autre vision, hein, c'est-à-dire que quand je leur ai parlé pour la première fois de communication positive, ils m'ont regardé avec des grands yeux en disant « Communication positive, ça veut dire quoi ?» Ça s'est passé très très bien. Dès l'instant où on ne les trahit pas, où l'on porte réellement le message, il n'y a pas de problème et je pense que c'est même des fois plus facile.
D'accord, merci. Gabriel.
Vous avez justement parlé du monde rural, alors c'est mon sujet là. Comment vous allez lutter pour empêcher la désertification du monde rural et la perte de son entre guillemets mode de vie?
Alors il faut savoir que ça me fait vraiment sourire parce que avant, quand on disait qu'on représentait le monde rural, que notre combat était essentiellement sur la ruralité, on nous qualifiait souvent de ploucs, de ringards. Enfin, j'ai entendu plein de choses. Et aujourd'hui, je m'aperçois que c'est véritablement tendance. C'est comme la mode, en fait. Hein. Ce qui était vieux hier est aujourd'hui à la mode. Et je trouve ça fabuleux, quoi. Parce que même dans les émissions de télévision, bien souvent, il y a un thème sur la ruralité. Alors, ça me fait plaisir parce qu'effectivement, nous représentons 20% de la population, c'est-à-dire 15 millions de personnes, mais nous gérons les 80% du territoire. C'est-à-dire que 20% de la population habite 80% du territoire et, à contrario, 80% de la population habite sur 20% du territoire. Alors, la ruralité, bien sûr que c'est un thème très important. Parce que la ruralité, tout le monde peut en profiter. Hein. C'est-à-dire que les personnes qui habitent en ville, qui sont des urbains, bien souvent viennent le week-end chez nous et pour se ressourcer, pour faire des tas de choses qu'ils ne font pas et voir surtout des choses qu'ils ne voient pas tous les jours et dont ils ont absolument besoin. Mais ça, c'est quand même nous qui y vivons, qui permettons justement de garder cette ruralité dans de bonnes conditions. Alors, pour éviter que cette ruralité meure, on a plein d'idées. Il est bien évident qu'on en a plein. Il faut savoir aujourd'hui qu'en termes d'emploi, si on veut monter une entreprise et si on veut bénéficier d'un certain nombre d'aides, il faut aller l'ouvrir il faut ouvrir une société dans des quartiers. parce que là, il y a un certain nombre d'aides sur les emplois, etc. Ce qui n'est pas le cas du tout en milieu rural. Alors concrètement, c'est quoi? Ça veut dire que si aujourd'hui j'ai envie d'ouvrir une société, si je veux bénéficier d'un certain nombre d'aides, il faut absolument que j'aille l'ouvrir dans un quartier. Je ne peux pas l'ouvrir dans un petit village. Alors, j'ai l'habitude de situer Mons-Boubert, c'est un petit village, il y a 4 cochons, 4 vaches et 3 poules. Et puis, accessoirement, il y a 20 maisons. Eh bien, si je décide d'ouvrir ma société là, je n'aurai pas les mêmes avantages que si je l'ouvre dans un quartier, le quartier nord-amien, par exemple. C'est injuste, parce que si, par exemple, j'avais ouvert ma société à Mons-Boubert, j'aurais donc créé des emplois, ce qui veut dire des familles se seraient installées, et là, la vie du village aurait pu reprendre, c'est-à-dire que la petite boulangerie qui a fermé aurait pu rouvrir. On aurait eu le médecin, l'infirmière et puis l'école aussi. Parce que forcément, il y a eu du tissu social autour de cette entreprise. Et ça, c'est très important. Aujourd'hui, il n'y a aucune mesure de réellement prise pour les ruraux.
Merci beaucoup. Jeanne.
Alors, moi, c'est sur un thème tout autre. Je voulais savoir si vous seriez pour une dépénalisation du cannabis.
Alors là, j'avoue que c'est une question à laquelle j'ai pas réellement réfléchi. Je pense qu'effectivement, y a tellement d'autres choses à faire que de fumer du cannabis. Enfin, franchement, c'est une question qui ne me sur laquelle je me suis pas penché du tout en fait.
Si je peux vous rassurer, vous n'êtes pas la première candidate qui parfois sèche sur une voire deux questions, donc ne vous inquiétez pas. Gabriel.
J'aimerais savoir comment se situe le CPNT sur le mariage et l'adoption homosexuelle, ou s'il prévoit des mesures particulières autres que le PACS.
Alors ça, c'est pareil. C'est une question qui est nouvelle, en fait. Même si l'homosexualité existe depuis toujours, on en parle de plus en plus. Alors, il faut être extrêmement prudent. Je pense qu'il faut véritablement se pencher sur le problème des enfants. Je pense que c'est eux qui sont au cœur de ce débat. Moi, personnellement, ça ne me gêne pas. Mais ceci étant dit, je pense qu'il faut véritablement étudier la question du bien-être de l'enfant. Je crois que ça, c'est primordial. Et en fonction de ça... Mais bon, je pense effectivement que les homosexuels sont également interpellés sur cette question, parce que bon, ils sont aussi confrontés à ça, et je pense qu'ils ne veulent pas faire de mal aux enfants qu'ils pourraient élever. Donc à partir de là, c'est la responsabilité humaine qui est en jeu. Après, est-ce qu'il faut vraiment légiférer sur cela? Je ne sais pas. Il faut y réfléchir.
Merci beaucoup pour toutes ces réponses. Et avec cette dernière question de Gabriel, nous venons d'en finir avec les questions sociales. Et nous arrivons à un peu plus de la moitié de cette émission. Et la tradition dans cette émission fait que l'invité nous propose une pause musicale. Et je vais vous demander donc quelle est la vôtre et les raisons de votre choix.
Marly Gaumont paraît tout à fait collé à notre programme. Je pense qu'il a été tout à fait objectif sur ce qu'il a dit. Et cette chanson est fabuleuse.
En plus, c'est un chanteur régional.
Eh ben voilà.
On se retrouve juste après cette pause musicale.
Qui est devenu national d'ailleurs.
Qui est devenu national, ouais. On se retrouve donc juste après cette pause musicale pour la suite des questions qui seront des questions diverses. Voilà, c'était donc Marly Gaumont, une chanson de Camini, un chanteur régional comme on le disait. Et nous retrouvons donc dans le déroulement de cette émission notre invité qui est Nathalie Huillard pour le CPNT, Chasse, Pêche, Nature et Tradition. Je vous rappelle que vous écoutez RVM sur 93.7 et que c'est Allons enfants de la campagne. Maintenant, nous allons passer, je crois Renaud, aux questions diverses.
C'est exactement cela, Eric. Alors, de nombreuses questions diverses, donc on va commencer par Christophe.
Donc, vous avez appelé à voter non au référendum de la Constitution européenne.
Oui.
Donc, si on lit les grandes lignes, vous semblez être en total désaccord avec l'Union actuelle.
Oui.
Qu'est-ce que vous proposez pour changer cela? Une rupture ou un aménagement?
Alors donc, on a appelé à voter non pour une bonne et simple raison, c'est que nous avons eu la chance d'avoir pendant une mandature 6 députés européens, CPNT. Donc on a pu voir l'intérieur du système qui est complètement désorganisé, qui n'est absolument pas représentatif de ce que le Français souhaite appliquer pour le bien-être de son pays et des personnes. Donc oui, on n'est pas foncièrement européen. Pas du tout même. On est plutôt pour l'Europe, mais pas cette Europe-là.
Justement, pour reprendre sur le thème de l'Europe, vous voulez réformer les statuts de la BCE, vu que vous voulez donner plus d'autonomie aux banques centrales nationales. Alors, j'aimerais savoir comment c'est possible, étant donné que de nombreux pays, à commencer par l'Allemagne ou les Pays-Bas, s'opposeront à cette réforme de la Banque Centrale Européenne. Donc, j'aimerais savoir comment accorder tous les pays, et en quelque sorte savoir si ce projet n'est pas un peu utopique.
Je pense qu'encore une fois, que ce soit pour la politique intérieure du pays ou pour la politique européenne, il faut une véritable volonté. Il faut s'accorder à faire passer les idées et ce qu'il y a de mieux pour le pays en fonction de ce que les Français ont demandé. C'est pas parce qu'on est à l'Europe qu'il faut oublier le souhait des Français. Si effectivement il y a une modification à faire sur n'importe quel thème pour ce qui s'agit de l'Europe, si c'est pour le bien-être de la France, parce qu'avant d'être européen, on est quand même français. Hein. Et aujourd'hui, on subit l'Europe. D'ailleurs, les Français l'ont témoigné avec le référendum. Il est clair que si tout allait bien et s'ils pensaient que l'Europe ne nous faisait que du bien, ils n'auraient pas voté non. Donc, il y a un véritable challenge à ce niveau-là, et ce sont à nos politiques, c'est-à-dire à nos élus européens et aux chefs du gouvernement français, bien entendu, de prendre les décisions qui s'imposent. Mais on voit bien que de toute façon, ce sera extrêmement difficile puisque le référendum, plus personne n'en parle aujourd'hui.
Mais là, ça dépend pas que de nous. Il est très difficile quand même d'imposer nos vues aux 12 autres chefs de gouvernement européens pour qu'ils tombent d'accord sur
24 autres chefs de gouvernement.
Non, mais pour la zone euro.
Ah oui, donc 11 autres, parce qu'on est 12.
13 avec la Slovénie.
Alors, encore une fois, là, c'est pareil. Quand on nous a annoncé, le passage de la monnaie euro, on nous a dit que tout serait fabuleux, que ce serait merveilleux, que le pouvoir d'achat serait super. Enfin, on nous a annoncé que de bonnes choses. Il fallait peut-être y réfléchir avant de nous l'imposer. Hein. Parce qu'en fait, beaucoup de Français ont écouté. Il y avait beaucoup de réticents quand même. Hein. Mais il s'avère que quand on fait le bilan de ce genre de choses, on s'aperçoit qu'effectivement, encore une fois, ils nous ont blousé sur le sujet. Hein. Alors, il fallait réfléchir avant. Aujourd'hui, il faut trouver des solutions. Mais c'est aux politiques de les trouver.
Vous n'êtes pas un retour au franc ?
Le retour, je pense que non. Non. Non, c'est trop tard. C'est trop tard. Mais il faudrait faire un aménagement qui soit peut-être plus favorable, parce qu'aujourd'hui, moi, ça me fait mourir de rire quand on me dit que, de toute façon, l'euro, ça n'a rien changé à l'économie et au pouvoir d'achat. Bah, écoutez, il faut qu'il m'explique comment, parce que vous comme moi, quand on fait nos courses, le caddie que je prenais avant et le caddie que je prends maintenant avec l'euro, bah, je suis désolée, hein, la somme, elle n'est pas la même, hein, au final. Donc, c'est qu'il y a véritablement un problème. Mais ça, effectivement, encore une fois, ils sont autistes sur le sujet.
Maintenant, une question un peu différente sur un autre sujet de la part de Jeanne.
Alors, comment vous placez-vous face au nucléaire, qu'il soit civil ou militaire ? Et de plus, vous dites ne pas vouloir remplacer les énergies renouvelables par les énergies fossiles. Donc, je voulais savoir pourquoi.
Alors, on n'est pas pour une solution. Enfin, on est pour un changement progressif. On peut pas du jour au lendemain dire on va retirer tout ce qui était fait avant et puis on va faire complètement autre chose. Bien entendu qu'on est de toute façon pour tout ce qui est au niveau de l'énergie, tout ce qui est renouvelable, etc. C'est évident puisqu'au niveau de l'écologie, on s'y place véritablement comme ça. Le problème aujourd'hui, c'est que en ce qui concerne l'écologie et notamment tout ce qui est énergie renouvelable, on nous l'impose uniquement en termes de taxes, en termes de coûts trop importants. Et c'est vrai que la plupart des personnes ne peuvent pas faire face à cela. Alors, c'est pas qu'on est contre, mais il faudra un aménagement différent.
Charline ?
Moi, je voulais savoir s'il existait dans d'autres pays des partis politiques à peu près identiques aux vôtres, c'est-à-dire qui défendent les mêmes valeurs, par exemple la pêche, la chasse.
Alors, il n'y a pas dans les autres pays, à ma connaissance, de partis comme CPNT, mais on a effectivement des mouvements qui sont similaires aux nôtres.
Gabriel ?
Alors, le CPNT veut en quelque sorte initier tous les élèves du primaire et du secondaire aux langues régionales et aux histoires de la région, enfin des régions. Alors, j'aimerais savoir si c'est pas un danger tout de même pour la cohésion nationale de développer en quelque sorte le sentiment régionaliste.
Non, je pense qu'effectivement, enfin nous on a toujours, et d'ailleurs ça a été un de nos slogans notamment pour l'Europe, la France des différences. Je pense que notre pays est beau grâce à ça en fait. c'est parce qu'on a des régions fabuleuses qui sont très ancrées avec du folklore, avec c'est fabuleux. Enfin bon, moi je suis très attachée au terroir, et c'est vrai que lorsque j'arrive dans une région que je connais presque toute, ce qui me fait plaisir, c'est d'entendre le patois. Bon, et si ça, on ne l'instaure pas, parce que ma génération à moi, et je ne suis pas vieille, hein, je n'ai que 40 ans, j'ai encore entendu parler ma grand-mère et mon grand-père patois. Il est bien évident que moi, je ne le parle pratiquement pas. Donc ma fille n'a aucune chance de parler patois. Et ce serait quand même dommage de se priver de cela.
Mais il n'y a pas une différence entre l'autoriser et le rendre obligatoire, parce qu'il y a peut-être des gens qui ne veulent pas apprendre le patois, oui. ni l'histoire des régions.
Moi, je ne suis pas trop pour l'obligation, effectivement. Je préfère qu'on laisse le choix, effectivement.
Parce que dans votre programme, il est marqué que c'est
obligatoire. Oui, en fait, je pense qu'il y a une grande discussion. Vous savez, nous, on n'est pas très... on est plutôt dans la discussion et dans le bon sens. On n'est pas là pour imposer des choses. Et dans le mouvement, c'est exactement ça. Quand on est au bureau national, on vient de toutes les régions de France, et il est vrai que bon, des fois on a des discussions qui sont un peu plus animées que d'autres, mais on arrive toujours à une cohésion intéressante. Et je pense que bon, c'est l'imposer, vous savez, on peut toujours imposer que ce qu'on veut, hein. Après les autres font ce qu'ils veulent, hein.
Très bien, Jeanne.
Alors quelle est votre position face au biocarburant?
Je suis complètement pour, bien sûr. Je suis complètement pour, et c'est vrai que jusqu'à maintenant, on nous a encore leurré en disant que ce n'était pas possible, que c'était trop compliqué, que... Bon, voilà, quoi. Mais je pense que si on avait fait le nécessaire, on y serait forcément plus en avance qu'on en est aujourd'hui. Hein.
Je pense maintenant à une question qui va particulièrement vous intéresser, de la part de Gabriel.
Alors, ça va porter sur la chasse et la biodiversité. Mmh. Donc j'aimerais savoir quel est le point de vue que vous défendez sur la chasse, quel est le mode de vie du chasseur que vous défendez, auquel vous tenez énormément, et savoir si ce mode de vie n'est pas contradictoire avec le maintien de la biodiversité que vous prenez également.
Non, pas du tout. S'il n'y avait plus de chasseurs, il n'y aurait plus de biodiversité. Il faut en être tout à fait conscient, parce que je vous ai dit tout à l'heure que nous gérions 80% du territoire, et c'est là où se trouve la biodiversité. Donc le chasseur aujourd'hui a un rôle extrêmement important dans la biodiversité, dans la gestion des territoires. Je vous donne un exemple très concret. En Suisse, il y a quelques années, ils ont interdit la chasse. Il faut savoir qu'il y a 3 ans, ils sont venus chercher des couples de perdreaux sauvages reproducteurs sur le plateau de Bourseville, donc à 12 km de Cailleux-sur-Mer en baie de Somme, pour réimplanter en Suisse. C'est pas fabuleux ça? Département de la Somme, un des départements où on chasse le plus, ils viennent chercher des perdreaux pour réimplanter sur un territoire, dans un pays où on ne chasse plus du tout. Pourquoi? C'est très simple. Au niveau du gibier, il a donc un problème avec l'agriculture intensive, son bioespace qui disparaît. Il y a les nuisibles qui prélèvent, la voiture qui écrase, et ensuite il y a le chasseur. Donc en fait, il y a 5 prélèvements possibles du gibier, et il n'y en a qu'un qui réintroduit le gibier. Alors, je vous donne un autre exemple très concret. J'aime bien, moi, les exemples qui sont clairs. Il est arrivé à peu près à tout le monde d'écraser malencontreusement un gibier. Alors, je vais prendre l'exemple du lièvre, qui est considéré chez nous comme petit gibier. Il y a le gros gibier avec les cerfs, les sangliers, etc. Mais le lièvre est le petit gibier. Si on écrase, on écrase un lièvre, on ne l'a forcément pas fait exprès. Donc c'était l'exemple que me donnait quelqu'un qui se disait écologiste et qui détestait donc ces PNT parce que justement il défendait la chasse. Donc je lui ai demandé s'il avait déjà écrasé un lièvre. Il m'a dit je sais pas ce que c'est. Vous savez, c'est une espèce de gros lapin un peu roux avec des grandes oreilles. Alors il me dit oui, tout à fait. Oui, ça m'est arrivé, mais je l'ai pas fait exprès. Je dis non, je ne vous dis pas que vous l'avez fait exprès, mais ça vous est déjà arrivé. Oui, tout à fait. Je dis, vous avez fait quoi? Rien. Il me dit, mais je ne l'ai pas ramassé. Je dis, non, mais vous avez fait quoi? Rien. Je dis, donc, vous êtes parti. Il me dit, oui, tout à fait. Je dis, donc, vous avez prélevé, mais vous n'avez pas remis. Il dit, prélevé? Je dis, oui, il est mort. Il me dit, oui. Alors, je dis, sachez, monsieur, que le lièvre que vous avez prélevé, il fait partie d'un comptage qui est effectué par des chasseurs. Et que forcément, ce lièvre ne fait pas partie du comptage. Si on a compté 100 lièvres sur le territoire et que vous en avez écrasé un, il en reste 99, mais pour le chasser, il va falloir qu'il y en ait 100. Donc ça veut dire que le chasseur va acheter les lièvres pour des reproductions qui sont sur le territoire. Alors il me dit, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse à ce moment-là? Je dis, c'est très simple. Vous regardiez le panneau de la commune sur laquelle vous étiez, vous alliez à la mairie, vous sortiez votre chéquier, vous demandez au bureau de mairie, ben voilà, je viens écraser un lièvre sur votre territoire, je vous dois combien ? Vous seriez extrêmement surpris de savoir combien vaut un lièvre, parce qu'à mon avis, vous le savez pas. Non, je sais pas. Ben, j'ai écoutez, moi, je peux vous le dire, à l'époque, nous étions en francs, et il faut compter à peu près entre 1300 et 1500 francs pour le couple de lièvres. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si le chasseur n'existait pas, nous n'aurions plus de petits gibiers. C'est-à-dire qu'on ne pourrait pas faire voir à nos enfants. D'ailleurs, ce matin, en venant, la nature était très très belle. On avait une jolie brume, etc. J'ai vu beaucoup de lièvres dans les terres que j'ai traversées. Eh bien, ça, c'est un danger. Donc, le chasseur a véritablement sa place dans la biodiversité.
Alors, une question qui va être un peu en rapport avec ce que vous venez de dire de la part de Charline.
Moi, je voulais savoir ce qui vous différencie des vers, mis à part qu'ils soient de gauche.
Tout. Les vers prônent une écologie de salon. Ce ne sont que des taxes. Nous, en fait, on a une écologie qui agit. Comme l'exemple que je viens de vous donner, en fait. Et les vers, c'est facile. Ils nous donnent des leçons. Ils nous disent qu'il ne faut pas chasser. On nous interdit de tirer les oies quand elles sont là. Mais ils ne nous parlent jamais des 75 000 oies qui vont être abattues. Est-ce que c'est mieux d'abattre 75 000 oies ou de nous laisser les chasser et d'en prélever 3 000? Parce que nous, on est complètement d'accord. Quand une espèce est en danger, il ne faut pas la tirer. Et on est les premiers à le faire. Quand on fait un comptage, qu'on s'aperçoit qu'une espèce est en danger, on gère, on ne le tire pas et on réimplante. Là, on est en train de travailler sur le lapin de Garenne parce qu'il est outrageusement blessé par la myxomatose. Il emmerde des milliers tous les ans, tout le monde s'en moque. Vous avez déjà entendu les écologistes parler de la myxomatose. Il faut savoir que la myxomatose n'existerait plus si jamais ils ne l'implantaient pas. Nous, on travaille sur un vaccin contre la myxomatose et on n'a même pas le droit aujourd'hui de pouvoir les vacciner dans certains territoires du département. C'est lamentable, mais ils n'en parlent jamais, jamais.
Alors justement, sans du tout vouloir vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, bon, CPNT a relativement une probabilité relativement faible d'être présent au second tour de l'élection présidentielle. Alors est-ce que finalement votre vrai objectif, votre vraie victoire, ne serait pas de se retrouver à l'issue du premier tour devant les Verts?
Bien sûr.
Parce que j'ai entendu Frédéric Nihous le dire plusieurs fois que ce serait la vraie victoire de la candidature CPNT.
Ce serait une victoire symbolique parce que c'est vrai qu'ils nous ont tellement fait de misère et puis c'est injuste. En plus, ils veulent absolument pas. On peut pas discuter avec eux. Donc ce serait une véritable victoire. Et puis ce serait aussi. Je pense à une conversation qu'a eu Monsieur Jospin à l'époque où il était Premier ministre. Il avait reçu Jean Saint-Josse, donc le président de notre mouvement. Juste avant qu'on le déclare candidat pour l'élection présidentielle. Et il lui avait dit, donc il lui avait demandé un certain nombre de choses avant donc de partir pour cette candidature. Et M. Jospin lui avait dit, écoutez, M. Saint-Josse, lorsque vous ferez plus que les Verts, revenez me voir, nous aurions probablement des choses à nous dire. Donc, il est fort probable que vu comment c'est parti, on va avoir probablement des choses à lui dire.
Très bien, merci. Jeanne.
Alors, quelle est votre position face à la pollution qu'émettent les 4x4?
Alors, vous savez, je suis très très partagée parce que j'estime aujourd'hui que on a trop souvent l'habitude de montrer du doigt certaines personnes. On va prendre notre candidat Frédéric Nihous. Il habite en montagne. Il a une voiture diesel. Pourquoi ? Tout simplement parce que pour aller bosser, il faut qu'il fasse 10 km. Il prend sa voiture. Alors il prend le vélo, mais enfin vous savez, c'est des cols, hein. Donc même au niveau du Tour de France, les grands coureurs, ils ont du mal. Donc lui, c'est pas la peine. Pour aller chercher son paquet de cigarettes ou pour aller chercher son journal, c'est 15 km. Pour aller à la piscine ou au cinéma, c'est 25 km. Donc il est bien évident qu'avec les salaires, parce que lui, c'est pas un haut fonctionnaire, hein, donc avec les salaires que nous gagnons, on est pratiquement obligé de prendre une voiture diesel parce que c'est moins cher. Mais demain, on nous dit que la voiture biocarburant est le biocarburant disponible à côté de chez lui. Il n'y a pas de souci. On préférera rouler propre. C'est évident. Mais qu'on nous incite à rouler propre. Aujourd'hui, c'est pas le cas. On nous montre du doigt. Et c'est ce que font les Verts, en fait. Mais vous savez, je vais vous raconter une petite histoire. Ça va prendre 30 secondes. Il y a très très peu de temps, Noël, ma mère, avait un rendez-vous avec une équipe de journalistes sur Paris. Alors, je sais pas, il y en a qui, voilà, hein. Il a dit qu'il était venu en vélo, qu'il avait mis un peu de temps, etc., etc., et il sortait d'une limousine. Alors, j'estime que bon, c'est un peu facile. Nous, en tout cas, effectivement, on roule en diesel, mais c'est parce qu'on peut pas faire autrement. Mais lui, par contre, dire qu'il ne le fait pas, c'est ça, les Verts, en fait. Ils disent tout le contraire de ce qu'ils font.
Charline.
J'ai vu sur votre site internet que vous n'étiez pas d'accord avec le réseau européen Natura 2000. Donc, je voulais savoir pourquoi.
Bah, parce que le réseau Natura 2000, ils veulent faire de nous des réserves d'Indiens. On ne va plus pouvoir éternuer, on ne va plus pouvoir se promener dans la nature. Mais attendez, ce n'est pas que nous. Hein. Nous, on va y vivre tout le temps, mais bon...
Juste pour poser tous les auditeurs, c'est quoi concrètement le réseau Natura 2000 ?
Mais ce sont des zones qui sont gérées. Et donc à partir de là, il y a une réglementation très spécifique au niveau de la culture, au niveau des espèces, etc. Donc en fait, ce sont de véritables, j'exagère pas, ce sont de véritables réserves. On n'aura plus le droit de rien faire. Attendez, on n'a plus le droit de cueillir une plante parce que, soi-disant, qu'elle est protégée, patati et patata. Après, on n'a plus le droit de faire du vélo parce que le vélo, ça fait aussi un peu de bruit, ça écrase les herbes qu'il faut pas. Enfin, non, Natura 2000, bien sûr, on est complètement contre.
Gabriel, dans un autre style.
Oui, mais qui reste encore en lien avec la ruralité. Vous voulez réintroduire aussi la police de proximité, ainsi que l'îlotage et d'autres formes de police qui ont été au fur et à mesure abandonnées.
Oui.
Mais ces réformes vont coûter cher.
Oui.
Donc j'aimerais savoir où est-ce que vous allez trouver le financement de toutes ces réformes.
On étudiera les budgets et on fera une équité intéressante.
Ce que j'aimerais savoir, c'est où est-ce que vous allez faire des économies pour essayer de trouver tout le financement nécessaire, en sachant que même le train de vie de l'État, la baisse du train de vie de l'État ne suffira pas pour faire ces réformes.
Si. Déjà, il y a de quoi prendre au niveau de la baisse du train de vie de l'État, je peux vous l'assurer. Ouais. Enfin, il n'y a pas que là. Hein.
Les experts financiers disent que ça ne suffira pas.
Oui, mais enfin, il faut prendre le rapport de la Cour des comptes. Déjà voir un petit peu ce qu'ils disent, parce que bon, ils disent aussi des choses qui sont très intéressantes et très très surprenantes. Et là, on s'aperçoit qu'il y a une manne financière extrêmement importante. Alors, il est bien évident qu'on ne pourra pas faire ça en quelques mois. Hein. On aura aussi besoin de temps pour pouvoir... Mais encore une fois, c'est juste une histoire de priorité. Et la priorité, je pense que tous les Français ont le droit à la sécurité. Et dans les zones rurales, on a aussi de gros problèmes. Je veux dire, je vais donner un exemple aussi. On est allé à une fête donc où il y avait un repas dans une salle des fêtes dans un petit village. Notre voiture était garée derrière la salle des fêtes. Bon, on a été vandalisé, il y a des voitures qui ont été volées, etc. Quand on a appelé la gendarmerie, 45 minutes pour venir. Mais imaginez si on se fait agresser 45 minutes avant que les... Pourquoi ? Parce qu'en fait, il n'y a plus du tout de proximité. Hein. Et ça, c'est quand même grave. Je veux dire, on a quand même aussi le droit à la sécurité. Et aujourd'hui, on est quand même délaissé pour compte.
Jeanne.
Donc, on en a déjà parlé tout à l'heure, mais vous dites que vouloir combattre la politique des Verts et vous engager, je cite, sur le principe de défense du droit constitutionnel de propriété. Donc, je voulais savoir ce que c'était.
Ben, en fait, on respecte le bien d'autrui. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on n'est pas d'accord qu'il faut aller manifester sur une propriété privée ou détruire un champ d'OGM. Enfin, voilà, il y a d'autres moyens de faire passer le message que de détruire. Nous, on est contre ce fait.
Une dernière question, donc, de la part de Gabriel.
Alors, comme beaucoup d'autres candidats, à l'instar de François Bayrou, vous demandez la prise en compte du vote blanc aux élections. Alors, le représentant de l'UDF nous avait très mal expliqué en quoi ça consistait la prise en compte du vote blanc, puisque, enfin, peut-être suis-je bête, mais je n'avais absolument rien compris à son explication. Donc, est-ce que vous pourriez nous expliquer quel est l'intérêt de prendre en compte le vote blanc et si réellement ça a un impact sur les élections ?
Alors, avant d'expliquer cette histoire de vote blanc, je pense qu'il est très très important aujourd'hui de prendre en compte le vote. On a la chance d'être dans un pays démocratique où on a le droit de s'exprimer. Je peux comprendre que le choix soit extrêmement difficile quand il y a deux candidats en qui on ne croit pas. Mais là, on a la chance, notamment à l'élection présidentielle, d'avoir 12 candidats. Donc si on se donne un petit peu la peine d'éplucher les programmes, on est forcément en phase avec quelqu'un. Donc allez voter, parce que ça c'est très important. On s'est battu, et nous les femmes, deux fois plus que vous les hommes, pour obtenir le droit de vote. Et ça, je pense que c'est très important et on ne doit pas négliger. Ça prend pas longtemps, il faut absolument voter. Alors prendre en compte le vote blanc, bien sûr. Parce qu'aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup plus de Français qui ne votent pas que ceux qui votent. Donc, ça veut bien dire que, quelque part, on n'est pas en phase avec la politique proposée. Alors, peut-être qu'il y en a aussi qui votent, quand ils votent blanc, c'est qu'ils se sont déplacés. Donc, c'est que quelque part, ils ont démontré qu'aucun programme ne les intéresse. Ils n'ont pas trouvé quelque chose qui, enfin, un candidat qui pouvait les réconcilier avec la politique. Donc, à partir de ce moment-là, effectivement, il faut prendre en compte ce vote blanc, le calculer dans le comptage des voix, et effectivement.
Mais justement, pour être président de la République, il faut avoir 50% des voix plus une.
Oui.
Si on comptabilise le vote blanc, il est possible qu'un président... Comment fera un président de la République si le premier arrive avec 49,9% des voix ?
Ben oui, donc vous comprenez bien que ça va être extrêmement difficile de prendre la décision et d'avoir le courage politique de les prendre véritablement en compte.
Parce que dans ce cas-là, c'est plus une majorité absolue, ce sera la...
Oui.
D'accord.
Très bien. Eric me signale qu'on a peut-être le temps de poser une dernière question extrêmement rapide.
Non,
c'est l'inverse. Tu disais que nous n'avions pas le temps de poser cette dernière question.
Exactement. Donc, nous allons proposer à Nathalie Guillard de bien vouloir nous résumer en une minute les points forts du programme de chasse, pêche, nature et tradition.
Alors, les points forts, eh bien, nous, on est pour un équilibre du territoire, comme je l'ai dit tout à l'heure. Hein, donc, prendre en compte ces 20% de Français qui vivent sur les 80% du territoire et également, à contrario, les 80% qui vivent sur 20%. En ayant une politique d'aménagement du territoire, de façon justement à pouvoir proposer aux personnes qui veulent s'installer en milieu rural pour un meilleur équilibre. Bien entendu, les services publics, ça reste très important parce qu'on ne pourra pas intéresser des familles à venir s'installer en campagne s'il n'y a rien du tout. C'est pas qu'elles ne veulent pas, c'est qu'à un moment donné, elles vont être confrontées au problème de notre quotidien, qui est celui d'avoir deux voitures si on travaille à deux, d'avoir une nourrice ou une crèche qui n'est pas construite et une école qui va fermer.
Très bien, merci beaucoup de votre participation à cette émission et je rappelle qu'il y avait autour de la table Jeanne, Charline, Gabriel, Sacha et Christophe. Renaud, je te dis au revoir, je dis au revoir à tout le monde et à la prochaine fois.
Au revoir Eric.
Au revoir. Au revoir.